Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et le débrief de la tech avec nos débriefeurs du soir, Didier Sanz, journaliste. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Tout va bien, tu as récupéré ta connexion?
Oui, c'est bon.
C'est bon, on peut démarrer.
On peut
avec
commencer.
Nous également Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Frédéric.
Fondatrice de Retency. Retency qui accompagne les entreprises sur les conseils stratégiques et puis évidemment autour de la technologie, puisque il y a quelques années, tu dirigeais Yahoo, donc tu connais bien Yahoo France. Tu connais bien tous ces sujets, bien entendu. Et puis Alain Goudet. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Frédéric.
Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School. On parlait dans le couloir, pour tout vous dire, de comment les étudiants ressentent un peu cette révolution. Et ça va, il faut bien les préparer, c'est ça?
C'est important de bien les préparer, oui.
Alors, on va démarrer avec vous. Alors, hier soir, Léa Benaïm, dans son Flash Tech, parce que les nouvelles de Google venaient juste de tomber. Donc, Google on va reparler de SpaceX dans un instant, parce qu'ils ont cette alliance avec SpaceX. Mais là, c'est Google Book. Google qui lance une gamme de PC où l'IA est au premier plan. Ils ont mis ça s'appelle Gemini Intelligence. Et ils sont en train de préparer l'après Chromebook. Alors, on va voir un peu qui deviennent concurrents. Alors, c'est vrai que le Chromebook Premium n'avait pas très bien marché. Est-ce qu'ils viennent concurrencer l'écosystème des plutôt haut de gamme, des portables plutôt haut de gamme, l'écosystème Mac? Comment il faut faire ça, Didier? Je sais que tu adores cet univers des PC. Comment tu vois l'arrivée de ces Google Books?
Alors, j'avais été déjà assez emballé par les premiers Chromebooks parce que je trouvais que le principe était intéressant, c'est-à-dire des ordinateurs ultra légers, ultra simples, qui fonctionnaient essentiellement avec des applications web et dont toutes les données étaient centralisées sur le cloud. Je trouvais ça intéressant. En plus, c'était vraiment très bon marché. Là, ils adoptent une position un peu différente. Ils voient l'étape suivante. Donc, ils appellent ça des Google Books parce que dedans, il va y avoir un nouveau système d'exploitation qui est basé essentiellement sur Android. Donc, il va y avoir forcément des interactions avec les Android qu'on connaît sur les smartphones. L'une des fonctions majeures qu'a présenté Google à cette occasion, c'était la possibilité de cloner le téléphone sur son PC Google Book pour avoir accès à son contenu, afficher les applications, les lancer, un peu ce qu'on peut faire maintenant sur Apple avec le système de réplication, de miroir d'écran, etc. Donc ça c'est bien, mais surtout, comme tu le disais, l'argument premier de ces Chromebooks, c'est l'usage massif de l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, ils sont déployés où, surtout les Chromebooks?
C'est beaucoup le monde de l'éducation.
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup le monde de l'étudiant, enseignement.
Étudiant, enseignement, un peu dans les bureaux, mais c'est vraiment pour faire de la bureautique. Hein. Mm-hmm. C'est pour du montage vidéo, des applications.
C'était notre terminal de l'époque quand on était bien jeune, presque. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc maintenant, ils s'appuient sur l'IA pour créer cette nouvelle génération de PC. Alors, j'insiste deux minutes sur le. Tu posais la question, est-ce qu'ils vont venir concurrencer les PC haut de gamme? Je pense pas.
Voire même le Mac Premium.
Ils ont un créneau. Il y a une place pour ce type de produit. Qui est à côté, je dirais, de macOS et de Windows. Et là, en l'occurrence, pour l'utilisation de l'IA, ça va vraiment apporter quelque chose d'un peu novateur. Là, on voit les exemples sur les écrans derrière. Ils ont inventé un truc assez marrant qui est le Magic Cursor. En fait, on bouge la souris et quand la souris arrive sur une certaine zone de l'écran, elle propose des actions en relation avec ce qui est affiché à l'écran, géré par l'intelligence artificielle. Par exemple, vous mettez le curseur sur la photo d'une robe, la photo d'une personne à droite, vous secouez et il va proposer de mettre la robe sur la personne.
D'accord.
Ou un meuble dans un coin, ouais. Une photo de l'intérieur de chez moi et hop, le meuble va être à l'intérieur. Donc, l'idée de Google, c'est de faire de cette relation avec l'intelligence artificielle vraiment le cœur de l'usage de cet ordinateur. C'est-à-dire que ça sera pas un truc annexe comme on a aujourd'hui. On pose une question à ChatGPT et on prend le résultat ou on le prend pas, ou on envoie une image sur sur Google Images ou sur Nano Banana, etc. Maintenant, c'est vraiment au cœur de
tout est intégré
de l'expérience utilisateur.
Parce que moi, je me demande avec l'intégration d'Android qui devient un peu l'OS universel. Oui. Alors, ils en parlent évidemment sur ces nouveaux, j'allais dire Chromebook, non, sur ces nouveaux Google Book. Ils en parlent. Alors, Samsung Galaxy va sans doute y être, les Pixels, enfin tout ça, on va pouvoir fonctionner tous ensemble. Est-ce que l'enjeu dans tout ça, Isabelle, c'est pas la guerre des systèmes d'exploitation IA, on va dire.
En fait, ce qui est vraiment intéressant, et Google le démontre là une fois de plus, c'est comment l'intelligence artificielle crée un élément totalement différenciant sur le marché, et la capacité de Google, à la différence des OpenAI par exemple, de pouvoir intégrer et distribuer leur outil IA dans un maximum de services de la vie quotidienne des gens. Et donc là, de nouveau, avec ce nouvel écran, c'est-à-dire que déjà, lorsque vous êtes sur votre mail, vous pouvez avoir accédé à des services qui sont nativement intégrés avec de l'IA. Lorsque vous êtes bien évidemment sur le moteur de recherche, vous avez des systèmes déjà préétablis, alors moins en France que dans d'autres pays,
oui, après,
mais
vous avez
déjà des synthèses
IA
qui sont proposées par l'IA. Et là, il rentre dans l'univers de la vie quotidienne avec la création d'un nouveau PC, où, comme le disait très bien Didier, l'IA est un nouvel outil totalement intégré dans la vie quotidienne. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il casse ce silo que Apple avait commencé déjà un peu à casser entre votre univers Android, c'est-à-dire votre univers téléphone, qui encore aujourd'hui, pour une majorité de gens, est très différent de l'univers du PC, de son ordinateur. Donc là, en termes d'UX et en termes de service, ils cassent les silos. Et donc, ces deux avantages...
J'ajoute que cette idée de mélanger l'OS du PC et l'OS du portable, c'était une expérience qu'avait tenté Windows. Tu te rappelles Windows 7 ?
Oui.
Qui était censé être le même système d'exploitation pour les PC et pour les téléphones portables. Ça fait un flop monumental.
Avec les tuiles, hein.
Oui, c'est ça. Ça a fait un flop monumental, mais l'idée était là, et effectivement, elle a été reprise, des briques, du concept ont été reprises à droite à gauche, notamment sur macOS et maintenant sur Google.
Voilà, mais je pense que c'est moins abouti que ce que va proposer aujourd'hui. C'est-à-dire, Apple est allé moins loin que ce que va proposer, semble-t-il. Alors, on n'a pas encore vu les produits, semble-t-il, Google. Et puis après, il y a une autre démarche stratégique qui est intéressante de la part de Google. Google n'est pas dans le hardware. Et là, ils vont quand même dicter de manière extrêmement forte.
Ils ont des TPU,
Ils commencent petit à petit, mais je suis pas sûre qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Mais là, par contre, ils vont quand même capter une partie de la valeur ajoutée du hardware, parce qu'ils vont dicter à Acer, à Samsung. Alors, il y avait un peu une polémique sur Samsung qui faisait pas partie de la liste de leurs partenaires. Un cahier des charges extrêmement strict, et donc il va obliger en fait les constructeurs de hardware de répondre à une problématique très spécifique, et donc de faire des ordinateurs spécifiques pour eux et pour Aluminium OS, qui est ce fameux navigateur.
Ils l'ont pas dit, mais bon.
Voilà, qui fait ce lien entre votre mobile et votre PC. Donc, ils vont clairement prendre une partie de la valeur captée par les constructeurs de hardware sur ce produit. Alors maintenant, leur premier ordinateur, c'est 25 millions de ventes. Donc, c'est tout petit sur le marché des ordinateurs. Là, c'est un vrai challenge. Ils veulent le positionner plus premium. L'IA, ça coûte cher, donc ils sont obligés effectivement de le positionner plus premium et plus cher. On va voir si ça marche.
Et puis, petit coup de pied pour Apple, un petit coup de pied quand même de côté, petit croc en jambe pour Apple, puisqu'ils intègrent Gemini Intelligence, voilà, là où Apple a encore du mal à mettre son Apple Intelligence dans ses équipements.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce mouvement stratégique, c'est que là où Apple fait du spatial computing, là on pourrait presque dire ils font du cognitive computing, en allant sur le terrain de, finalement, l'IA va être au cœur du dispositif et de la relation humain-machine. Et du coup, ils vont explorer en fait cette démarche d'avoir un outil à la fois très polyvalent, c'est-à-dire la capacité de passer du smartphone à l'ordinateur et de revenir, etc. Mais en plus, avec un relationnel et le rapport humain-machine qui est très particulier, puisque il le dope quand même très fortement à l'IA, avec des interactions assez étonnantes, hein, quand même, et qui vont être assez nouvelles. L'autre signal qui est assez intéressant, pour le coup, je pense que Google se renforce, en fait, justement, dans la stratégie autour du hardware. Tu citais les TPU. Je suis pas certain qu'ils vont rester si timides que ça. Donc, autour des TPU.
Qui sont des composants plutôt dédiés à l'inférence.
Hein, et qui permet justement de l'inférence en local, qui est quand même un point de force de toute la stratégie Apple Silicon, hein, donc de toutes les puces.
D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils avaient entraîné, enfin que Google Gemini, les bons résultats qui étaient à l'époque, quand ils l'ont sorti il y a quelques mois, c'était sur du TPU.
Sur leur propre hardware.
Google. Absolument, effectivement, ils investissent et sur les semi-conducteurs, mais ils n'ont pas encore investi sur du hardware grand public.
Ouais.
Mais effectivement, leur clé de différenciation est une des clés de la capacité, de la rapidité de Gemini, c'est clairement ces semi-conducteurs.
Et puis le cloud derrière.
Et leur force du côté cloud, data centralisée déjà, et ce qui du coup est aussi possiblement une faiblesse, parce qu'une fois que tu embarques l'IA au cœur de l'interaction humain-machine, et que tu deviens effectivement une espèce de moteur à anticiper le besoin dans le cadre de l'interface de ce que l'utilisateur veut, tu as quand même un vrai sujet qui est la confiance accordée par l'utilisateur sur le traitement non plus de ces données entre guillemets déclaratives, mais de ces données comportementales. Et là, ça devient un sujet quand même un peu.
Ils ont donné une date de disponibilité
Oui, je l'avais noté.
C'est fin d'année, je crois.
Oui, fin d'année.
C'est pour Noël, les ventes de Noël.
Mais c'est intéressant cette idée de Google est actuellement l'opérateur qui a le plus de données utilisateurs en sa possession, raison pour laquelle.
De très très loin.
Voilà, enfin, raison pour laquelle son IA est l'une des plus performantes, parce qu'elle est parfaitement entraînée à partir de données très très larges.
Multilingue, enfin voilà.
Là, t'imagines tout ce qu'ils vont récupérer avec ça ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir non seulement les usages de l'ordinateur et la manière dont les gens utilisent l'ordinateur, ce qui va servir à faire un apprentissage de leur IA et en plus à optimiser toutes les applications qu'ils vont proposer. C'est une arme absolument incroyable.
On a notre Français qui est très fort là-dedans, Jonathan Cherki, là, comment s'appelle son entreprise?
Content Square,
voilà.
Alors, c'est différent. Content Square, c'est de l'analytics sur les sites.
Mais ça suit un peu
Mais il l'a en silo, c'est-à-dire qu'il n'a pas une vision transversale.
Là, il y a tout.
Là, c'est une vision transversale. Et alors après, il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est la navigation à la voix. Alors, ils en ont parlé,
2026,
en fait. Ils en ont parlé dans les descriptifs, etc. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, Siri avait montré beaucoup de difficultés dans sa mise en place, même si ça s'améliore aujourd'hui. Et là, ils expliquent qu'effectivement, avec la voix, on pourra demander, par exemple, la création d'un widget directement sur cette nouvelle interface.
Oui, parce qu'on n'a pas, parlé de la voix, mais c'est vrai que parler à son ordinateur, déjà donc, maintenant toucher l'écran, c'est vrai qu'on s'y habitue.
Donc avec Apple, on a appris à toucher son écran, ce qui était quand même une révolution en termes du X. Et effectivement, cette interaction à la voix, on l'attend depuis longtemps. Et on va voir ce que Google nous propose avec cette nouvelle.
Ce qui peut marcher, hein. Ils ont un des meilleurs modèles multimodal aujourd'hui, hein. Ils ont fait les annonces là, je crois que c'était hier ou quelque chose comme ça, où ils disent, clairement, on a une convergence multimodale sur les modèles IA. Et on voit aussi, d'ailleurs, que tous les acteurs, finalement, de la tech sont en train de réfléchir à l'après-smartphone, l'après-ordinateur, avec de nouvelles formes, finalement, d'interaction, et où l'IA jouera un rôle majeur, quoi.
Et donc là, l'exemple qui était donné, c'est la création de widgets, c'est-à-dire de raccourcis. Pour les gens plus âgés comme moi, directement sur son bureau, où on peut dire, ben voilà, crée-moi un raccourci ou un accès direct de mon bureau pour suivre ma livraison. Et l'agent IA se crée immédiatement à la voix. Ouais. Et donc, c'est vraiment des ruptures en termes du X qui sont très importantes.
J'imagine même ça dans un cadre bureautique. Hein, on est toujours en train de chercher ses fichiers et tout ça, lui dire, trouve-moi, mais fais-moi un accès direct vers ce répertoire-là.
Est-ce que votre bureau serait mal rangé, monsieur Frédéric?
Non, mais j'oublie parfois dans quel répertoire je l'ai mis. Autre sujet, on va rester Google. Alors, c'est de savoir, est-ce que le futur de l'IA sera... dans l'espace.
Pour Google... une fois, le terme de cloud aura au moins une
voilà. Le cloud serait... Google serait en pourparler avec SpaceX. Alors, c'est un article du Wall Street Journal, mais enfin, bon, qui est quand même assez documenté. Alors, il faut savoir que Google est un actionnaire minoritaire de SpaceX.
6%.
Oui, oui. Et que si SpaceX entre en bourse et dégageait les 1200, 1300 milliards, ça fera un beau petit pactole pour Google aussi en termes d'action. En tout cas, ils veulent lancer dès 2027 des satellites capables d'héberger de la puissance de calcul pour l'IA. Alors, c'est contourner les limites énergétiques. Enfin, il y a pas mal de choses. Pourquoi pas en cyber aussi. Le cloud spatial, faut y croire. Alain, je te marre avec toi.
Alors oui, enfin je crois qu'on est dans une période où en tout cas il faut se poser la question.
Enfin voilà, c'est une idée qui commence à cheminer.
Non mais il faut se poser la question. Il y a quand même un vrai sujet sur l'histoire du cloud spatial et notamment pour venir nourrir justement et entraîner les modèles IA, etc. Aujourd'hui, le facteur limitant de l'IA, c'est l'électricité. Du coup, c'est la capacité à avoir finalement de l'énergie électrique un peu meilleur marché. Alors, ça ne veut pas dire que le spatial résout tout. Ça résout une partie de l'équation, mais pas la totalité, parce que voilà, les conditions dans l'espace sont un peu plus complexes que sur Terre.
Oui, parce qu'on parle de la température ambiante, mais il y a du rayonnement.
Il y a du rayonnement qui peut griller les circuits électriques. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Après, il y a un autre sujet aussi qui est la problématique de refroidissement. Et en fait, si tu veux, quand tu cumules les deux, quand tu regardes aujourd'hui les problématique sur les data centers, c'est qu'en fait c'est assez politiquement incorrect de construire un data center parce que tu as la problématique justement de rareté de l'eau et finalement le spatial apparaît comme un territoire à explorer parce que malgré les défis techniques qui restent qu'on n'a pas résolu du tout, c'est quand même un territoire sur lequel ça pourrait faire sens parce que au moins politiquement c'est un peu plus simple à gérer finalement
en,
dans la
création. En basse orbite on est à 600 km donc on est là, c'est pas
et après,
si loin.
L'alliance avec SpaceX fait sens parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes en termes de finalement de capacité de maintenance d'un certain nombre de dispositifs en grand nombre en orbite, c'est un peu les seuls qui savent le faire.
Oui, enfin le partenariat. Didier. Oui, juste pour rappeler le partenariat, d'après ce que j'ai compris, il porte uniquement sur le lanceur, pas du tout sur le partage de ressources ou quoi que ce soit.
Google, par exemple, il veut lancer des satellites capables d'héberger de la puissance de calcul de l'IA. Donc il veut.
Leur propre truc indépendamment de ce que fait SpaceX de son côté.
SpaceX qui a d'ailleurs signé avec Anthropic il y a quelques semaines.
Oui, c'est pour ça que ça peut bouger. Mais
et d'ailleurs, Google n'est pas en négociation exclusive avec SpaceX, c'est-à-dire qu'il pourra faire appel à d'autres lanceurs pour lancer ses réseaux dans les
Espaces Origin en Europe.
On espère qu'ils vont évidemment s'adresser à Ariane. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça, et puis effectivement, ils ont l'idée étant que, enfin moi j'ai trouvé ça très poétique, c'est qu'on a d'un côté les rayons du soleil qui vont produire l'énergie, de l'autre côté le froid de l'espace qui va refroidir les datas.
C'est ça. Condition idéale.
Voilà. Je crois que l'espace n'est pas froid. En réalité, je crois que c'est une perception, mais je crois que l'état, c'est pour ça que c'est très difficile de refroidir.
Quand on est dans un avion, ils nous disent la température extérieure.
mais en fait, je crois que c'est pour ça que c'est très difficile de refroidir. Enfin, et c'est un des challenges.
Quand tu dis froid, c'est-à-dire quand il y a les rayonnements solaires, voilà, il y a ce côté, j'imagine, de chaleur.
Mais ce qui est intéressant, c'est que encore récemment sur ce plateau, on disait c'est une espèce de lubie d'Elon Musk de vouloir mettre des data centers, et puis c'est un bon moyen d'expliquer qu'il a besoin de lever beaucoup d'argent pour SpaceX à la veille de son rentrée en bourse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à le penser. Et Sundar Pichai, même s'il y a 6% d'actions, mais ils ont tous des actions partagées, Sundar Pichai, en fait, y réfléchit depuis, semble-t-il, un certain temps. Ils ont des POC, c'est-à-dire des premiers essais qui sont prévus, avec une société qui s'appelait Planet Lab, et les difficultés à résoudre, c'est effectivement la maintenance, parce que même si c'est à 600 km, ça paraît pas très loin sur la Terre, mais il faut y aller, donc changer un disque, c'est un peu compliqué. Donc il y a effectivement la maintenance, la résistance de l'électronique, s'il y a des tempêtes, je sais pas, voilà, une grande complexité.
Non, puis il y a les déchets dans l'espace aussi.
Les déchets dans l'espace, où ils peuvent avoir des chocs, etc. Mais il semblerait, et c'est ce qu'a l'air de dire Musk, et c'est ce qu'a l'air aussi de dire Sundar Pichai, que au global, le coût pourrait être compétitif par rapport aux investissements nécessaires sur la Terre, connaissant effectivement les contraintes, notamment énergétiques. Oui. Alors, cela dit, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la fusion, c'est-à-dire une énergie à prix zéro. Ça veut peut-être dire qu'effectivement, c'est moins avancé que ce que l'on pouvait dire il y a un an et demi ou deux ans sur ces projets-là. En tous les cas, la quête de l'énergie et le pouvoir accéder à l'énergie, ce que va proposer Musk, est une vraie source de pouvoir.
Oui. Ça, c'est Google... il y a l'histoire d'énergie, il y a l'histoire de latence aussi, parce que, alors je disais, c'est 600 km, les liens satellites, on voit quand même, ça s'est considérablement amélioré. L'histoire de souveraineté aussi, quelque part, ça va être et de cybersécurité, je pense que, pirater un lien satellite, ça va être quand même un peu plus compliqué que pirater une fibre optique.
Non,
je miserais pas là-dessus. là-dessus, moi, bon, parce que justement, tu maîtrises un peu moins qui s'approche de ton système. Non, mais juste pour sur la fusion, en fait, aujourd'hui, on maîtrise le procédé, hein, en gros, sur une demi-heure, ce qui est quand même un progrès colossal par rapport à il y a ne serait-ce qu'un an et demi, deux ans. Et Google investit aussi sur ce thème-là. C'est pour ça que je disais que l'électricité, l'énergie est vraiment le facteur limitant aujourd'hui de l'IA, et on voit bien que tous les grands de la tech cherchent des manières de faire.
Exactement. Dans la fusion et l'espace,
ce qui est intéressant quand même,
l'alternative.
Dans cette info, c'est encore une fois les liens endogamiques qu'il y a entre les uns et les autres. Quoi. Je te fais un coup de main là-dessus, tu viens m'aider pour faire ci, j'investis dans ta boîte, mais je vais utiliser tes services, etc. Parler d'Anthropique avec...
SpaceX, sur le projet Columbus, oui.
Mais ça a toujours existé, et c'est ce qui
Nvidia
fait la...
avec Intel. Oui.
C'est la force du hub et de l'écosystème de la Silicon Valley. Il y a 25 ans, c'était déjà le cas. Yahoo avait des parts dans Google.
Ils se connaissent tous, en plus.
Yahoo avait des parts dans Alibaba. Yahoo a été sauvé par la valorisation d'Alibaba. Cette espèce parce qu'ils se connaissent tous.
Il y avait plus d'acteurs, je pense, à l'époque qu'aujourd'hui.
Je ne sais pas.
Le monde de l'IA,
les valorisations étaient moindres.
Il y a
5
entreprises et des satellites autour, quoi.
C'est vrai. Mais en tous les cas, ces relations, les gens se connaissent, c'est assez normal, c'est un village. Et donc, les investisseurs croisent régulièrement les chefs d'entreprise.
Allez, revenons sur Terre, et vraiment bien sur Terre, les deux pieds dans la glaise, les deux pieds robotiques, les deux pieds de nos robots bipèdes. Toi, Didier, tu l'avais carrément mis dans tes sujets, ton premier sujet dont il fallait débattre ce soir. Ouais. C'est la start-up américano-norvégienne OneX qui ouvre une usine en Californie pour fabriquer, alors voilà, 10 000 robots néo par an. Le premier humanoïde grand public est à 20 000 $. Alors, on peut soit l'acheter, soit l'avoir avec un système de location. Il y a juste un détail, c'est qu'il n'est pas totalement autonome et un opérateur humain peut prendre la main. Et donc, s'il se promène chez nous, je crois que l'opérateur humain, il met un casque de réalité virtuelle et puis il devient il pilote le robot s'il y a le moindre souci, mais ça veut dire qu'il est chez nous.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu des commandes pour une année de livraison de produits, donc il y a des gens qui font entièrement confiance à ce genre de produits, et je ne sais pas s'ils sont vraiment informés sur tous les enjeux que ça représente, parce qu'effectivement, on l'a vu, la vidéo de ce robot qui sort la machine du lave-vaisselle, qui plie les vêtements et qui les range, etc. On se dit, c'est le monde de demain. Ça me fait penser à la science-fiction qu'on voyait dans les années 50 avec ces paysages idylliques, ces voitures volantes, etc. Le seul souci, c'est qu'il a besoin d'entraînement, et l'entraînement qu'il a est un entraînement assez généraliste. Et pour faire des tâches un peu plus compliquées, c'est là qu'il y a une décharge de souveraineté, je dirais, où effectivement l'opérateur à distance prend en charge le robot et lui montre les gestes à effectuer pour qu'il puisse s'entraîner et faire son apprentissage et mener à bien sa mission. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il regarde tout ce qui se passe chez vous, que même
Il cartographie la maison, déjà.
Il cartographie la maison, il voit les personnes qui sont là, il peut en déduire des informations sur la richesse du foyer, sur le nombre d'enfants à charge, sur les tendances politiques, artistiques, en fonction de ce qu'il voit, etc. Il y a plein de choses derrière qui arrivent. Alors, la boîte en question dit, nous, OneX, nous...
On floute et...
On floute les personnes, on donne un cadre horaire, on crée des zones, des no-go zones pour éviter que le... Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on sait très bien comment ça va marcher. N'importe quel pirate va rentrer dedans et va avoir toutes les informations possibles, imaginables.
Souvenons-nous, il y a quelques semaines, on recevait ici un pirate qui avait piraté des aspirateurs de robots.
Donc il y a eu ce précédent-là. Maintenant, vous imaginez, avec un produit comme ça, il aura accès à tout ce qui se passe dans la maison, même peut-être le code de l'alarme qu'il aura vu quelqu'un effectuer. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que va faire cette entreprise des données qu'ils vont récolter. Ils vont forcément les monétiser à un moment ou à un autre. Et puis tout ce qui est l'aspect judiciaire, il peut y avoir des abus. On l'a déjà vu, aucun régime n'est à l'abri d'un changement brutal de politique.
Et tout d'un coup, le robot devient le gardien de la maison. Et
ils vont demander à accéder à toutes les
informations.
Imagine
en période de confinement, en disant « Ah non, on ne sort pas ». Se met devant toi, Isabelle.
Oui. Alors moi, je suis vraiment, et c'est d'ailleurs la mission de Retency, de protéger la donnée personnelle. Donc je suis extrêmement attentive à ça. Cela dit, dans ce cas-là, Et pour avoir vu des gens qui ont perdu leur autonomie, et c'est là où on va, c'est-à-dire que la démographie aujourd'hui des pays occidentaux est en baisse, on va avoir de plus en plus de gens qui ont eu des pertes
d'autonomie.
Même
d'autonomie, la Chine s'y
fait. Et il y a de moins en moins de jeunes pompiers qui sont là 24/24 pour venir soulever la vieille dame, s'assurer qu'elle n'est pas tombée,
mais là,
etc.
Tu parles de et choses donc, avec des bonnes intentions. Est-ce que tu crois une seule minute que les gens qui ont créé ça ont des bonnes intentions ?
Je n'en sais rien. La seule chose que je dis, c'est que aujourd'hui, lorsque vous faites venir quelqu'un pour aider quelqu'un qui est dans la difficulté et qui n'est pas autonome, vous n'avez pas forcément son casier judiciaire non plus. Donc le problème existe quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à une perte d'autonomie d'une partie de la population de plus en plus grande, que la personne soit chez vous et abuse de vous, et on l'a vu encore récemment avec des histoires d'Orpea, etc., qu'elle abuse de cette perte d'autonomie, qu'elle soit directement chez vous ou par l'interface d'un robot. Les deux sont extrêmement compliqués. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on va plus, ou dans les 10 prochaines années, on n'aura plus suffisamment de bras humains qui vont en plus coûter de plus en plus cher pour faire face à la vieillesse de la population. Alors, sauf si Laurent Alexandre trouve un système pour que l'on vieillisse tous extrêmement bien et sans perte d'autonomie, je pense que ces sujets-là sont vraiment à regarder avec attention. Avec, bien évidemment, toutes les barrières qu'il faut mettre sur la qualité des gens qui sont derrière les écrans, etc. Mais à un moment donné, ça va devenir indispensable. Alors, il y avait des Japonais qui avaient effectivement eu ces idées les premiers, parce que
c'est Coréens aussi,
les Coréens, parce que c'est un peuple.
Et les Chinois s'y mettent, parce que aussi, c'est la démographie en Chine est en train de chuter.
Mais bien sûr.
Ils sont 700 millions, je crois, dans quelques années.
Donc, tous ces pays, enfin, tous les pays occidentaux et maintenant asiatiques et plus uniquement le Japon, sont confrontés à cette perte d'autonomie. Et donc, il y a un moment donné où il va falloir trouver des systèmes. Est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est vivre avec un robot, etc.? Mais c'est absolument.
C'est pas ce que montre cette entreprise qui vise clairement un public plutôt fortuné.
Là, on voit des seniors.
Ouais.
Fortunés, mais seniors.
Accessoirement.
Alain.
Alors, moi, le sujet de la robotique humanoïde et du maintien à domicile, c'était un de mes sujets de recherche en 2016. Tout ça pour dire que il y a mine de rien en 10 ans des progrès quand même extrêmement importants, puisqu'à l'époque c'était avec Aldébaran Robotics, c'est un projet qui s'appelait Roméo, qui était une espèce d'armoire à glace de 250 kilos. Effectivement, on était très très loin de tout ça, et je me suis retrouvé face à face avec cette espèce de mastodonte, et on voit quand même mine de rien les énormes progrès techniques qui ont été réalisés sur une échelle de 10 ans.
Parce que c'est 40 ou 50 mécanismes à l'intérieur de ces robots.
C'est d'une complexité colossale. Mine de rien, j'ai pas eu le temps de regarder quelle est la durée d'autonomie en termes d'énergie électrique, on y revient, de ce dispositif. Moi, les robots humanoïdes, j'ai pas regardé celui-là, mais j'avais vu plutôt de l'ordre de 20-30 minutes. Mm-hmm. C'est encore assez light en termes de capacité. Enfin, la promesse est un peu trop élevée par rapport à la réalité de ce que j'ai vu. Après, il y a le vrai sujet de l'acceptation et de l'acceptabilité en fait du produit. À l'époque, quand j'avais interrogé des personnes âgées, en gros, ils m'expliquaient, non mais moi, un robot humanoïde, jamais de la vie, parce que le jour où j'achète un produit de ce type-là, ça veut dire que je reconnais moi-même ma propre dépendance. Mmh. Et ça, c'est en fait un geste extrêmement compliqué pour les personnes, justement, qui sont sur la voie de se retrouver sur la dépendance. Et on voit bien que du coup, c'est plutôt je repousse. Donc, est-ce que réellement les personnes âgées vont être la cible acheteuse du produit?
Surtout quand on n'a pas été, on parlait du Japon, nous on n'a pas trop été,
c'est pas notre culture.
En Occident, on n'a pas été élevé là-dedans, les Japonais peut-être un peu plus.
C'est pas du tout notre culture. Et après, moi je rejoins effectivement le point de la problématique de la privé, donnée. Hein. Enfin, le truc, c'est que là, ça me rappelle, tu sais, un peu les Waymo qui sont quand même conduits à distance par des humains. On fait croire que l'IA, la machine aujourd'hui, c'est un truc magique, mais on oublie de dire que les modèles de génération de texte sont quand même pré-entraînés par des humains. Dans des conditions qui sont pas forcément dingues. Là, on a des opérateurs qui peuvent prendre la main. C'est pareil sur les voitures, etc. Donc, il y a quand même tout un narratif autour de la technologie qui a finalement, pour le coup, pas trop changé en 10 ans. Mais il y a une réalité qui est effectivement un vrai point d'interrogation. Et effectivement, je crois que le vrai danger, c'est qu'on fait rentrer aujourd'hui des dispositifs dont on ne maîtrise quand même franchement plus rien en termes de sécurité.
Bon, voilà, c'était un sujet en tout cas intéressant. Mmh. Voilà, on est au tout début de tout ça, mais on voit 20 000 $. Je dirais pas que c'est abordable, mais pour certains foyers, 20 000 $, oui, c'est le prix d'une petite automobile. Donc pourquoi pas s'offrir ça. Faudra regarder.
C'est beaucoup plus que les 2 millions d'il y a 10 ans. évident.
Il faut que ça marche plus d'une demi-heure. Quand
oui,
même.
Quand même. Oui, oui. Parce que la vitesse de vider la vaisselle, là, c'est la vitesse d'un ado, à peu près une demi-heure. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve avec nos trois débriefeurs, Didier Sanz, Alain Goudet, Isabelle Bambry, dans un instant. On va parler notamment du procès entre Sam Altman et Elon Musk. Ça commence à se battre sérieusement autour de ce procès. On parlera aussi de pourquoi. Tiens, hier on vous disait que Jensen Huang ne serait pas du voyage avec Donald Trump pour aller voir Xi Jinping, et finalement, hop, il a eu un strapontin dans l'avion, comme par hasard. Voilà, on parlera de tout ça. Allez, restez avec nous. On est encore ensemble pendant une bonne heure sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.